Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Ce 30 avril, nous retrouvons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé, pour notre entretien régulier sur les ondes de Radio La Pourdiratia et de Radio Présence Lourdes-Pyrénées. J'en profite pour saluer tous les auditeurs de ces deux radios et aussi notre collègue Violaine Ricourduna, qui est à la maison puisqu'elle attend un heureux événement. Et c'est aujourd'hui Olivier Drapé qui est avec moi, délégué épiscopal à l'information et à la communication, donc pour mener cet entretien. Bonjour Monseigneur Ayé.
Bonjour.
Alors Olivier Drapé, nous allons parler aujourd'hui de sujets de société, et puis nous aborderons ensuite différentes l'actualité locale avec le Pays Basque notamment, et puis nous parlerons bien sûr de l'Église universelle et puis des événements qui vont se dérouler dans notre diocèse très rapidement, très prochainement. Et nous commençons tout de suite par un premier sujet consacré aux états généraux de la bioéthique.
Oui, c'est un sujet sur lequel on a déjà pris la parole, on s'est exprimé sur ce sujet, mais aujourd'hui, 30 avril, c'est le jour de la clôture de la consultation des citoyens sur le site officiel des États généraux de la bioéthique, ce qui nous vaut un certain nombre de réactions, d'un côté comme de l'autre, aussi bien de la part de la mouvance LGBT pour laquelle les débats ont été noyautés par les catholiques ou par la Manif pour tous, qui cherche à imposer sa vision religieuse de la société. C'est une réaction qu'on peut voir actuellement circuler sur les réseaux sociaux et sur Internet ou dans la presse, ou d'autres réactions, celle de Monseigneur Aupetit, par exemple, le nouvel archevêque de Paris, qui lui considère qu'une partie de nos concitoyens, y compris les catholiques, dit-il, ne prennent pas la mesure des changements qui risquent de nous impacter. Et il a l'air de déplorer l'ignorance ou le fatalisme, parfois, des catholiques ou de nos concitoyens sur ce sujet. Alors, quelle est votre position, Monseigneur, sur ce débat, la façon dont il s'est déroulé et les suites à donner?
C'est vrai que la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, ces états généraux de la bioéthique, qui ont été ouverts, je crois, en janvier de cette année, et qui se clôturent en effet le 30 avril, se sont passés de manière assez confidentielle. Même si les débats étaient assez ouverts, on en avait facilement la liste quand même et les lieux, grâce à un site qui d'ailleurs a été mis en fonction assez tardivement, on n'en parle pas beaucoup dans la presse. J'ai en effet ouï dire que beaucoup de citoyens engagés, c'est vrai dans le mouvement de la Manif pour tous, ont répondu présents assez facilement à ces différents débats qui ont été organisés au niveau national et que d'une certaine manière, les organisateurs ne pensaient pas que l'opposition à un certain nombre d'évolutions sociétales soit aussi présente dans ces débats et finalement peut-être dans la société française. Je crois cependant que Monseigneur Aupetit soulève une réalité qu'il faut bien regarder en face. C'est que nous ne sommes pas suffisamment, les fidèles de l'Église catholique en particulier, et sans doute les citoyens au sens large, ne sont pas assez avertis en effet des défis que supposent ces évolutions sociétales annoncées, et peut-être par ignorance et manque d'informations concrètes et scientifiques. Alors je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que nous avons sans doute à participer à ce débat et en essayant d'être actifs dans ces différents débats organisés nationalement. Mais nous avons surtout à apporter une grande information de type objectif, scientifique et éthique à nos fidèles. Je crois que c'est une première chose et je pense que la Conférence évêque de France, à travers ses fameuses fiches techniques sur chacun des 9 sujets qui ont été listés par le Conseil consultatif national d'éthique, qui ont été aussi vulgarisés dans le diocèse de Paris par des fiches un peu plus brèves et même un petit ouvrage à la portée de tous, On pourrait faire de diffuser largement ces informations qui permettent de saisir l'enjeu du débat et peut-être d'avoir une influence possible au moment des débats parlementaires, en particulier en allant à la rencontre des élus qui nous représenteront lors de ces débats parlementaires. La deuxième chose que je dirais, c'est aussi que le fait qu'il y ait une multitude de sujets intégrés à cette révision des lois de bioéthique fait que les plus importants, me semble-t-il, ceux qui provoqueraient un vrai basculement culturel et d'ailleurs durable, pourraient paraître presque inaperçus au milieu de cette floraison de sujets abordés. C'est sûr que l'intelligence artificielle est une réalité importante, surtout avec les évolutions technologiques d'aujourd'hui, mais il ne faudrait pas occulter les points qui me semblent les plus fondamentaux et dont l'urgence du traitement n'échappera à personne, qui sont le statut de l'embryon, qui est quand même voué à la manipulation, à l'expérimentation, et qui donc est une atteinte à la dignité de la personne. Et il y a la PMA pour toutes, donc la procréation médicalement assistée, là où, jusqu'à présent, même si on peut avoir un avis éthique sur la question divergent, mais jusqu'à présent, la procréation médicalement assistée est là pour réparer une infertilité, donc des faits qui sont liés à la nature de l'infertilité, devient le lieu d'une organisation par la loi d'une conception d'enfant sans père. Là, c'est une autre affaire. Et on voit bien qu'il y a un vrai problème éthique. Et puis le problème de la fin de vie de l'euthanasie, je le répète que la dernière révision date de 2016, avec la loi Claeys-Leonetti, qui n'est seulement pas parfaite, mais en tout cas qui insiste fondamentalement sur les soins palliatifs et se refuse à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Et pourquoi, en dernier ressort, de manière un peu inattendue, ce sujet a été mis sur le tapis de la révision des lois de bioéthique de 2018. Enfin, je termine par un point que vous avez souligné. On a beau jeu d'accuser la Manif pour tous ou les milieux catholiques d'imposer leur vision religieuse, mais je rappelle que quand les chrétiens s'engagent dans ce débat sur la révision des lois de bioéthique, ils ne se situent absolument pas par rapport à leur foi, mais par rapport à la raison. Nous sommes dans un débat qui, avec tous les citoyens, et dont l'instrument est la raison éthique. Alors que l'Église puisse purifier la raison éthique et renforcer les données de raison par les données de la foi et donc de la révélation sur le dessein de Dieu sur l'homme, le mariage, la famille et la vie humaine, la dignité de la personne humaine, c'est une chose. Mais l'Église, là, se situe dans un débat et dans un dialogue au niveau de la raison scientifique et la raison éthique.
Monseigneur, pour revenir sur le sujet de la fin de vie de l'euthanasie, ce sujet a pris une ampleur à laquelle on ne s'attendait peut-être pas. D'une part, en raison d'un récent avis du Conseil économique, social et environnemental le 10 avril dernier, qui s'est prononcé de façon assez majoritaire d'ailleurs en faveur de ce qu'on appelle la sédation profonde, explicitement létale, c'est-à-dire en réalité en faveur de l'euthanasie, mais il y a aussi deux affaires très médiatisées qui ont attiré l'attention de l'opinion publique, mais aussi qui ont suscité des appels à plusieurs reprises du pape François. C'est l'affaire Vincent Lambert, dont on parle depuis bien des années, et une autre affaire qui s'est d'ailleurs dénouée il y a seulement quelques jours par la mort de son protagoniste, en quelque sorte, le petit Alfie Evans en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ces deux cas et nous peut-être commenter les appels que le pape François avait lancés en leur faveur? Pape François qui d'ailleurs s'est dit très, très ému, profondément touché, a-t-il dit, par la mort du petit Alfie Evans en Grande-Bretagne.
Il faut souligner en effet que c'est quand même assez exceptionnel que le pape prenne publiquement position devant des milliers de personnes et des millions de téléspectateurs, parce qu'en général, c'est diffusé de manière mondiale, au cours d'un Regina Celli, donc d'un Angélus du dimanche, et au cours d'une audience générale du mercredi, il a cité à deux reprises deux personnes, parmi les milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre aujourd'hui, le petit Alfie, en effet, dont les parents demandaient de pouvoir assurer le transfert dans un autre hôpital, le pape s'engageant à accueillir cet enfant dans un hôpital del Bambino Gesù pour les enfants malades, dépendants du Saint-Siège. Et d'ailleurs, la République italienne, à la demande du pape, avait même donné la nationalité italienne à ce petit garçon. Et contre la volonté des parents, considérant que les soins qui lui étaient apportés, puisqu'il était sous respiration artificielle, sans lesquels il ne pouvait pas vivre, cet enfant de 24 mois, était disproportionné, la justice britannique, contre l'avis des parents, décide de mettre fin à ce traitement et donc de condamner cet enfant à mort, pour parler vulgairement. Et le pape s'est prononcé en faveur de cet enfant et a fait des démarches même concrètes pour que cet enfant soit, à la demande des parents, admis dans cet hôpital romain. Quant à Vincent Lambert, là aussi, il y a quelque chose médiatiquement qui est très surprenant, c'est que le pape est aussi intervenu en sa faveur pour demander qu'on respecte leur vie à ses deux frères, comme il dit, Alfie et Vincent Lambert, et ce n'a pas du tout été médiatisé. Seul Ouest France a fait part de cette intervention du pape. Aucun média nationaux n'ont fait référence à cette intervention du pape dans ce débat, alors qu'ils ont parlé de Vincent Lambert et d'Alfie. Vincent Lambert, je rappelle qu'il n'est pas, contrairement à ce que disent les médias, dans un état végétatif, mais aussi relationnel. Ça veut dire qu'il est capable d'une certaine communication, même si elle est très relative. Il n'est pas en fin de vie, il n'est pas malade, et il pourrait même, s'il était rééduqué, sans doute, d'après un certain nombre d'experts, être capable d'être nourri normalement. Donc là, il y a là aussi, en effet, quelque chose qui est assez qui remet en avant, en effet, cette question de l'euthanasie. Alors c'est sûr qu'on peut déplorer qu'une famille se déchire autour de ce cas. On n'a pas d'ailleurs à juger ni les uns ni les autres. Ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'on peut arrêter les traitements basiques. Les soins basiques, qui ne sont même pas des traitements médicaux, comme la nutrition et l'hydratation, de quelqu'un qui n'a pas perdu sa dignité sous prétexte qu'il n'est pas capable de communiquer de manière suffisamment consciente.
Merci Monseigneur, nous retrouvons dans quelques instants pour la seconde partie de notre émission.
Radio La Pour Dire à Tia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Hayet, l'actualité, c'est également au niveau national la soirée organisée récemment par la Conférence des évêques de France, le 9 avril, au Collège des Bernardins, avec un discours très remarqué d'Emmanuel Macron, notamment sur la laïcité. Que vous inspire cette soirée et ce discours d'Emmanuel Macron ?
Bon, nous avons été, nous, quant à nous, les évêques de base, si je puis dire, simplement avertis, de l'invitation faite par le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France au président de la République dans le cadre d'un dîner au Bernardin, d'une rencontre au Bernardin qui a fait penser en effet au dîner du CRIF ou au repas de fin de jeûne des musulmans. Bien. Qui, soit dit en passant, semblait assimiler la communauté des catholiques de France à une communauté parmi les autres au sein de notre République française, ce que nous pourrions, nous, d'une certaine manière, récuser poliment. Car nous ne sommes pas une communauté comme les autres, nous appartenons à une Église qui est universelle, dont la mission est universelle et qui ne saurait être réduite à un groupe parmi les autres au sein de notre société. C'est d'ailleurs relatif aussi à l'histoire de notre nation, que d'ailleurs M. Macron, de manière assez sympathique, a rappelé sur tous les tons au cours d'un dossier qui était d'un discours, un long discours d'une heure, qui était émaillé de nombreuses références à l'histoire commune de l'Église catholique et de la nation française, et également de nombreuses références puisées dans notre patrimoine théologique et spirituel. Et c'est pas banal, donc ça mérite d'être souligné. Et c'est vrai que le discours pour les catholiques était assez audible, dans le sens où il est sorti de cette espèce de laïcisme ambiant parfois, qui, non content de défendre la laïcité de l'État, semble défendre aussi la laïcité de la société, ce qui n'est pas compris dans les termes de la Constitution française qui régit le vivre ensemble dans notre pays. Et donc c'est vrai que c'est assez important de le souligner, puisque ça a en effet suscité de nombreuses réactions extrêmement négatives, agressives et violentes de la part des chantres de la sacro-sainte laïcité. En même temps, je crois que si il semble qu'il y ait des avancées quand même dans ce discours, quand il reconnaît la sagesse de l'Église qui a porté des fruits, lorsqu'il se porte en garant de la liberté de croire ou de ne pas croire, selon les termes même de la Constitution, lorsqu'il croit que, même si les racines peuvent être coupées, la sève de la sagesse de l'Église catholique peut continuer à porter des fruits aujourd'hui, et que nous avons besoin de la voix de l'Église dans les débats de société d'aujourd'hui, qu'avait d'ailleurs souligné de manière assez précise Mgr Pontier dans son discours d'accueil, c'est-à-dire essentiellement la bioéthique et les migrants, et c'est assez intéressant d'ailleurs de relier les deux, on aura l'occasion certainement dans cette émission d'en reparler, mais tout en disant « ne soyez pas injonctifs », restez dans le questionnement, ça nous intéresse, votre liberté, tenez-y, en particulier votre liberté spirituelle, celle que vous exercez en particulier dans vos cloîtres. Donc c'est assez intéressant que les monastères soient aussi reconnus, hein. Il y a eu des époques où c'était plus difficile. Et en tout cas, je me porte garant que tous les citoyens adhèrent sans compromis aucun aux lois de la République. C'est-à-dire finalement, on mettait les lois de la République au-dessus de la conscience, et en particulier de la conscience des catholiques, qui peuvent être heurtés légitimement par certaines lois de la République. C'est au moins une hypothèse qui, en effet, est aussi parfois réalité.
Monseigneur Hayé, un mot sur une déclaration qui a été reprise par les médias ce week-end et les jours qui précèdent, celle de l'évêque de Gap et d'Embrun, Monseigneur Xavier Mal, qui est monté au créneau pour lancer un appel en faveur de l'accueil des migrants, un appel à la solidarité nationale. Alors vous, en tant qu'évêque, comment vous recevez cet appel d'un de vos confrères ?
Alors, j'ai trouvé que cette déclaration était originale et courageuse, et qu'elle avait le bon goût de ne pas entrer dans le discours politique politicien, hein, qui s'est emparé, comme on le sait, de cette question des migrants. Et il parlait à partir d'une expérience concrète, qui est celle de son diocèse et de son département, hein, des Hautes-Alpes, donc du diocèse de Gap. Car l'on sait en effet que beaucoup de migrants qui sont arrivés en Italie et qui sont là en grand nombre et qui vivent là dans des conditions, c'est vrai, de relative précarité, essaient par tous les moyens de passer les frontières qui se sont fermées, comme on le sait davantage, et en passant par la montagne. Hein. Et donc là, on voit bien que dans cette médiatisation, il y a l'affrontement politique entre génération identitaire qui a pris elle-même la liberté d'empêcher ces migrants de passer et au contraire d'autres groupements plus de gauche ou d'extrême gauche qui facilitent l'appel le passage des migrants contre d'ailleurs les lois de l'État. Et donc là, d'une certaine manière, Mgr Mal fait un appel vibrant, d'ailleurs qui était largement médiatisé, je ne sais pas s'il pensait que ce serait autant médiatisé, pour dire ne faites pas de ce département le lieu d'affrontement politique et le jeu politique. L'accueil des migrants, il ne faut pas se cacher derrière son doigt, ils sont en Italie de l'autre côté, qu'est-ce que l'Europe fait, dit-il, pour aider l'Italie à gérer ce problème apparemment insoluble? Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils viennent chez nous, et ils y sont. Alors lui, il dit, il faut faire attention aussi qu'on ne distingue pas suffisamment de manière claire, et aujourd'hui on est dans un vrai flou artistique, les migrants économiques, hein, qui viennent ici parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver davantage de dignité économique, et les réfugiés politiques qui fuient des situations de persécution, de guerre, et qu'on doit nécessairement accueillir. Donc il faudrait non pas faire le tri, parce que ce serait contraire à la dignité de la personne humaine, mais on doit discerner. Hein, Dieu sait si le pape François nous appelle au discernement, qui est un des actes de ce qu'on appelle la vertu de prudence. Et comme d'ailleurs M. Macron l'a rappelé aux évêques à propos de cette question des migrants dans son discours aux Bernardins, il a rappelé que le pape François avait lui-même parlé de la prudence. Il n'empêche que nous devons accueillir ceux qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit, et en même temps, il pose la question et il dit c'est une solidarité nationale qui est en jeu. À propos des mineurs non accompagnés, il dit il y en avait 60 dans notre département en 2016. Cette année, on en a accueilli 1600. Pour un département de 140 000 habitants, il n'est pas dit qu'il puisse à lui seul, sauf peut-être qu'il est près de la frontière, résoudre cette question des migrations qui nécessite quand même beaucoup de discernement et d'action en amont, en particulier dans les pays d'où ils viennent et d'où ils sont parfois contraints d'arriver chez nous.
Le 20 avril dernier, l'organisation Basquetea a publié un communiqué pour demander pardon pour le mal qu'elle a causé pendant les années où elle a mené une lutte armée en faveur de l'indépendance du Pays Basque. Cette déclaration a été saluée par notamment ici au Pays Basque français par l'ensemble de la classe politique. L'Église a publié un communiqué par la voix des évêques basques et de Navarre. Donc vous avez signé ce communiqué. Quel est le message que vous avez voulu faire passer à l'occasion donc de cette demande de pardon de l'ETA?
Alors je ne sais pas si on peut parler exactement de demande de pardon. C'est en effet le titre que les médias ont donné à cette déclaration. Je crois que la déclaration est une déclaration de reconnaissance des dommages causés par l'ETA au cours de ces dernières décennies. Mais c'est vrai que les évêques ont voulu, avant la déclaration annoncée de la dissolution de l'ETA, qui d'ailleurs est appelée davantage une démobilisation qu'une dissolution, je crois, dans les termes, a voulu faire un communiqué pour d'abord exprimer sa satisfaction pour l'aspect positif quand même de cette déclaration qui est en effet une première, hein, et en même temps de réaffirmer sa solidarité envers toutes les victimes. Vous remarquerez que autant les médias ont parlé, et c'est vrai que c'est une préoccupation surtout de l'épiscopat espagnol, donc de l'autre côté, les 829 victimes innocentes de l'ETA, en même temps, il n'est pas du tout fait question d'aucune catégorie, hein, ici dans cette déclaration, dans ce communiqué des évêques que j'ai signé avec eux. On parle de solidarité envers toutes les victimes de la violence et leurs familles, comme envers les victimes des attentats qui n'ont pas encore été élucidés et qui souffrent aussi de cette impunité. Et on peut penser à tous ceux dont on ne parle pas beaucoup, de certaines bavures quand même du GAL, donc qui ne sont pas plus signalés d'ailleurs que les victimes, les 829 victimes dont on parle habituellement. Peut-être aussi des démarches de torture dans les prisons espagnoles pendant un certain temps, davantage encore pendant l'époque franquiste et peut-être aussi encore après, qui n'ont pas complètement été élucidées. Donc je pense qu'on peut comprendre tout cela et surtout je pense que le communiqué des évêques appelle à une vraie réconciliation qui passera en effet par des demandes de pardon authentiques, hein, et des réparations. Et au sein de l'Église, nous aussi, on peut avoir des repentances à faire quand on a pu être complice ou pas forcément de manière parfaitement intentionnelle et en toute connaissance de cause, mais de certains de ce groupe qui est quand même déclaré idéologiquement totalitaire, idolâtre, hein, qu'était l'ETA, et ça a été quand même bien souligné dans ce communiqué. Mais c'est un appel en tout cas à ce que l'on continue à cette œuvre de réconciliation, donc de réparation aussi, bien sûr, pour les dommages causés.
Quand vous évoquez dans le communiqué, vous venez d'y faire allusion, là, les complicités, les ambiguïtés, les omissions pour lesquelles nous demandons sincèrement pardon, on a du mal quand même à voir Mgr Hayet complice de l'ETA ou Mgr Mounia complice de l'ETA.
Oui, mais l'Église...
Vous faites allusion à qui,
quand l'Église fait repentance, elle fait repentance pour l'ensemble de sa corporation. Là, on fait repentance pour les membres de l'Église dont nous sommes aussi solidaires. C'est comme aujourd'hui, quand moi je demande pardon au nom de l'Église à une victime de la pédophilie. C'est évidemment pas moi qui en suis directement la victime.
Alors le 4 mai va avoir lieu une conférence internationale pour la paix. Alors on ne sait pas trop encore si ça sera vraiment là que va être annoncée la démobilisation ou la dissolution de l'ETA. Ça va se passer chez nous, à Cambo-les-Bains, à la Villa Arnaga. Vous allez suivre, bien sûr, ce qui va être dit lors de cette conférence.
Bien sûr, je pense qu'on sera, évidemment attentif aux paroles qui seront prononcées et aux déclarations qui seront faites, ça c'est évident. C'est sûr que, personnellement, je suis un peu surpris quand même de la... Pas la médiatisation seulement, parce que c'est important que la paix s'instaure de manière définitive. Et comme je l'ai moi-même souligné dans mon communiqué ou mon message de Pâques, qu'on pouvait que se réjouir que la paix progresse dans notre Pays basque, par exemple entre les familles, dans les villages, où il y a eu des tensions, comme on le sait, dans les décennies à cause de tout ce problème de l'ETA. Mais je veux dire par là que je suis étonné quand même de cette théâtralisation quand même, de cette dissolution de l'ETA annoncée avec un nombre d'événements qui se sont succédés pour une organisation qui, somme toute, ne doit plus représenter grand monde aujourd'hui, ni de manière active, puisqu'ils ont déposé les armes depuis un certain temps, même ni de manière tout à fait politique. On voit bien que l'ETA ne jouit pas d'une grande notoriété aujourd'hui dans l'opinion générale. Au Pays basque du Sud, sans doute principalement, mais
le 4 mai, il y aura des représentants de l'Église, de l'institution Église à Cambo.
Je ne pense pas. En tout cas, ça n'a pas été annoncé.
Pour l'après, est-ce que l'Église va prendre une part dans le dialogue justement avec les victimes?
Oui,
parce qu'elle a quand même, je pense, un rôle à jouer au niveau
tout à
de
fait.
En tant qu'experte en humanité, comme on vous le rappelait souvent.
Oui, tout à fait.
Est-ce que l'Église va s'impliquer dans l'écoute, dans
L'Église le fait déjà. Elle est dans son rôle lorsqu'elle accueille les familles, toutes les familles des victimes, toutes les victimes. Qu'elle les écoute et qu'elle aide en effet à un discernement et à des démarches de vraie réconciliation, et quand elle prie aussi pour la résolution de cette affaire.
Nous nous retrouvons dans quelques instants et nous parlerons de la vie de l'Église universelle et de la vie diocésaine.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur, le pape François récemment a publié une exhortation apostolique, Gaudete et Exultate, l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Alors vous ferez, je crois, une conférence pour présenter de manière assez précise cette exhortation apostolique sur la sainteté le 17 mai prochain à la maison diocésaine de Bayonne à 20h30. Mais que pouvez-vous d'ores et déjà nous dire du contenu de cet appel du pape François à la sainteté?
D'abord, avant de vous parler du contenu, je vous parlerai de l'événement que constitue cette exhortation apostolique, qui, au contraire des autres, n'était pas attendue. Autant la joie de l'Évangile était attendu, puisque c'était l'exhortation apostolique post-synodale, après le synode sur l'évangélisation, qui avait été présidé par le pape Benoît XVI. L'encyclique sur l'écologie était attendue. On parlait d'une encyclique sur cette question de l'écologie de l'environnement, dont il avait d'ailleurs parlé, je crois, le jour même de son intronisation, le 19 mars 2013. L'exhortation apostolique sur la famille et le mariage était attendue, puisque ça a été le résultat de deux synodes en 2014 et 2015, sur la famille dans les circonstances actuelles, autant l'exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté est arrivée comme une nouvelle inattendue. Et pour moi, une magnifique surprise qui ne peut être qu'une inspiration de l'Esprit Saint. C'est là où on se rend compte que, comme dit Jésus en parlant de l'Esprit, à Nicodème, le vent, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et c'est magnifique. Moi, j'ai accueilli ça avec une grande satisfaction, d'autant plus que, comme vous en rappelez peut-être, dans ma première lettre pastorale, La Charité du Christ nous presse, comme première priorité pastorale, j'ai précisément parlé de la vocation à la sainteté, que je présente très souvent, mais je ne suis pas le seul évidemment, en partie dans mon livre sur le Concile Vatican II, comme le ressort le plus caractéristique de la réforme que le Concile Vatican II a voulu pour l'Église. Hein, ce chapitre 5, central donc de la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, qui traite précisément de la vocation commune à tous les baptisés, à la sainteté. Et dans ma petite lettre pastorale pour la béatification de Louis-Édouard Sestac, j'ai reparlé de cette sainteté pour tous, hein, que ça nous faisait davantage approfondir, en disant que c'est la première priorité que les pasteurs doivent offrir à leurs fidèles, donc comme dominante de la pastorale de l'Église. Et le pape, eh bien, nous rappelle cette vocation à la sainteté. Alors, j'aime beaucoup le titre en latin, « Gaudete et exultate », qu'il faut traduire en effet dans nos traductions liturgiques, « Soyez dans la joie et l'allégresse ». D'ailleurs, j'étais déçu que la Conférence évêque de France, qui a fait aussi une publication de cette exhortation apostolique, et l'ait donné comme titre en français « La joie et l'allégresse ». Ben non, « Soyez dans la joie et l'allégresse », d'ailleurs qui est tiré, comme le pape le souligne immédiatement dans son introduction, de la béatitude des persécutés pour la justice. C'est vraiment mettre la joie et la sainteté à son vrai niveau, si vous voulez, et la vie chrétienne à son vrai niveau. Et quand on lit cette exhortation, on voit bien que le pape ne fait pas un traité sur la vocation à la sainteté, un traité de spiritualité, mais il veut faire retentir de manière nouvelle, dans les circonstances actuelles, cet appel vibrant de Jésus à la sainteté. Voilà. Et d'ailleurs, il emploie très souvent la deuxième personne du singulier en écrivant, il s'adresse à nous en disant « tu hein ». Et donc c'est vraiment « soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse » parce que le Seigneur vous appelle à être des saints, ce que le pape Jean-Paul II appelait déjà dans son exhortation, dans sa lettre apostolique, programme après le grand jubilé de l'an 2000, le haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Et le pape insiste dans le premier chapitre pour dire que nous sommes tous appelés à la sainteté, que ça n'est pas réservé à une élite de héros, hein, mais que les pauvres pécheurs que nous sommes sont appelés depuis le baptême hein, à la sainteté, qui est d'abord un don de la grâce avant d'être une tâche à accomplir. Et chacun a un appel particulier. Et il insiste beaucoup sur les saints de la porte d'à côté, ou la classe moyenne de la sainteté. Et de découvrir que dans notre vie, dans la vie de notre Église, de nos paroisses, de nos familles, eh bien, il y a des gens qui, à travers l'accomplissement humble de leur devoir d'État et généreux, eh bien, sont des saints. Et nous donnent déjà des modèles de sainteté. Comme pour dire que les grands saints que nous vénérons, qui sont de grands intercesseurs, puissants auprès de Dieu pour nous, eh bien, ne sont pas à copier. Parce que chacun, dans son état de vie, chacun dans les circonstances dans lesquelles il est, avec ses limites, ses fragilités, est appelé à ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Alors il est très intéressant de voir que dans le deuxième chapitre, il va insister sur les ennemis subtils de la sainteté, qu'il a déjà défini d'ailleurs dans sa première exhortation apostolique et qui a fait l'objet d'un travail de la Commission théologique internationale il y a quelques mois, qui est ce qu'il appelle le néo-gnosticisme et le néo-pélagianisme, hein, qui est de faire davantage confiance dans nos efforts humains, dans nos sécurités humaines aussi sans doute, mais dans notre autoréférentialité humaine, lorsque on croit que nos structures, la manière dont nous pensons l'Église, notre style de vie, parfois trop extérieur, eh bien, nous sauvera. Et non, la sainteté, c'est une grâce. Ce qui est premier, c'est d'accueillir la grâce. Et ensuite, de la mettre en œuvre pas à pas. Hein, c'est la sainteté des petits gestes et la sainteté des petits pas, mus par la grâce, dont des œuvres sans doute, qui sont d'abord des œuvres de miséricorde. Et dans le troisième chapitre, qui est central, intitulé « La lumière du Maître », eh bien, il nous rappelle quel est le contenu de cette sainteté. Eh bien, il suffit de lire l'Évangile, et essentiellement c'est le Sermon sur la montagne, hein, qui est la charte parfaite de la vie chrétienne, comme disent les pères de l'Église, à commencer par saint Augustin, et qui est toute résumée dans les 8 béatitudes. Et il y a un commentaire extrêmement frais, extrêmement vivant, bref, de ces béatitudes, qui constituent en effet le contenu de la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, à condition de nous fonder d'abord sur la grâce, et pas d'abord sur notre connaissance, nos pensées, nos opinions, et nos méthodes, et nos actions propres, et nos efforts humains. Et puis enfin, le quatrième chapitre, il va nous donner quelques caractéristiques de la sainteté pour aujourd'hui, qui correspondent à la culture qui est la nôtre, qui est souvent plongée dans l'anxiété, l'angoisse, la tristesse, qui dans les propositions religieuses tous azimuts, qui nous invite à le monde d'aujourd'hui qui est souvent négatif et triste, où on retrouve la violence, l'anxiété nerveuse et la violence, l'assédie commode, consumériste et égoïste, l'individualisme et aussi de nombreuses formes de fausse spiritualité sans rencontre avec Dieu qui règnent dans le marché religieux actuel.
Et c'est pas de cadeau quand même. Il y a des choses quand même qui sont assez dures.
Ah ben, c'est un père spirituel, hein. C'est un jésuite qui, d'une certaine manière, donne des exercices spirituels. Hein. D'ailleurs, il terminera sur les grandes intuitions des exercices spirituels de saint Ignace. Hein. Il nous reprend, il nous corrige, il nous aide et tout le monde en prend pour son grade. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est tous dénoncés d'une certaine manière. Et je pense bien que lui-même, comme tout prédicateur de retraite, se dénonce lui-même en nous dénonçant. Hein. Mais on se sent tous un petit peu dénoncés. Et ça nous déstabilise un peu dans nos certitudes, dans nos conforts, et ça nous aide à être peut-être plus attentifs à la parole de Dieu et à ce à quoi il nous appelle, c'est-à-dire à devenir des saints. En disant que c'est vraiment ça qui réformera l'Église, c'est la sainteté, c'est pas nos méthodes et nos idées. Et il terminera donc dans ce dernier chapitre, en effet, après avoir insisté dans, parmi les caractéristiques sur le sens de l'humour, sur l'audace et la ferveur, sur la vie en communauté, sur la prière constante, eh bien il termine le cinquième chapitre sur le combat spirituel et le discernement. Alors là, on est en plein dans les exercices spirituels de saint Ignace. Notre vie est un combat. La vie chrétienne est un combat spirituel. On ne combat pas seulement le mal comme une idée abstraite, mais on combat le mal comme une personne qui s'appelle le diable, dont il parle souvent, qui n'est pas un mythe, qui n'est pas un symbole, et qui cherche à nous empêcher de parvenir à ce pourquoi Dieu nous a créés, comme saint Paul nous le rappelle, et c'était dans l'introduction aussi de cette exhortation apostolique, à devenir des saints. Hein. Quand saint Paul nous dit « Le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour », qui suppose un discernement des esprits en nous pour savoir quelle est la volonté de Dieu dans les circonstances concrètes de mon existence.
C'est un texte assez abordable.
C'est un texte très abordable. Hein.
Donc on peut qu'inviter les auditeurs à le lire,
oui. Vraiment, chacun se sentira lui-même interpellé, personnellement par le pape, à travers sans doute la tradition de l'Église, et en particulier de l'Évangile, hein, à espérer devenir un saint. Qui que nous soyons, quels que soient les péchés de notre vie et les limites de notre existence.
Alors, comme vous l'avez évoqué, cet appel à la sainteté, on le retrouve avec le Concile Vatican II, mais on vit toujours dans l'Église, il y a cet appel à la sainteté. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement? Est-ce que c'est pas peut-être la mise en perspective par rapport aux autres textes qu'il a sortis, que le pape François a sortis? Est-ce qu'il n'y a pas une liaison, enfin, un lien avec les textes précédents de son magistère?
Alors, je pense qu'il rappelle une vérité fondamentale, en effet, qui traverse l'Évangile, et donc qui traverse nécessairement toute l'histoire de l'Église. Hein. Et d'ailleurs, l'attention des papes, et le pape François ne déroge pas à la règle, aux béatifications et canonisations, c'est-à-dire la reconnaissance de la sainteté de toutes sortes d'hommes et de femmes, souvent contemporains maintenant, qui ont vécu ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire, en est le signe manifeste. Mais peut-être que c'est une manière de recentrer aussi la préoccupation de l'Église, voyez. Le pape, il a été élu sur un programme qui a été longuement discuté par les cardinaux en consistoire, qui était la réforme de la curie romaine, la réforme des structures de l'Église, auxquelles se sont attelés tous les papes récents, et parfois auxquelles ils se sont, sur lesquelles ils se sont un petit peu cassés les dents. C'est une manière de dire oui, mais le cœur de la réforme, c'est la sainteté, qui est l'œuvre de la grâce. Ce n'est pas d'abord nos entreprises humaines, ce ne sont pas nos structures. Voyez, et donc ça correspond certainement, peut-être à une prise de conscience, je n'en sais rien, pas du pape, mais qu'il nous demande d'avoir, alors que nous, nous cherchons en effet à toujours mieux réformer nos structures. Il avait déjà dit, et ça va bien dans le même sens, que la réforme des structures, elle doit être au service non pas de notre fonctionnement interne, mais au service de l'annonce de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui pour une Église en sortie missionnaire. Et donc, il avait insisté dans sa première exhortation sur la formation de disciples missionnaires. Bon. Ensuite, il s'est attaché à une question qui est cruciale aujourd'hui, qui est celle du mariage et de la famille, étant donné aussi les difficultés qu'elle traverse dans notre monde, qui est un monde de crise aussi au niveau des repères familiaux. Et maintenant, il dit, mais ce qui est premier dans tout ça, c'est que nous sommes appelés à devenir des saints. Les vrais réformateurs de l'Église, les vrais disciples missionnaires, ce sont les saints.
Merci Monseigneur Haillé, nous retrouvons dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission consacrée à la vie diocésaine.
Radio La Pourdi, Ratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Nous retrouvons Monseigneur Marc Haillé, nous allons parler de quelques événements diocésains. Nous allons commencer par parler des ordinations qui vont se dérouler cette fin d'année pastorale. Alors, il y a une première ordination qui va avoir lieu dès ce mardi 1er mai.
Cette année, je vais d'abord ordonner un prêtre pour la fraternité Saint-Thomas Becket, comme vous savez, qui est implanté dans le diocèse depuis quelques années et qui, dont les prêtres sont tous incardinés dans le diocèse parce que cette fraternité a son siège maintenant dans le diocèse de Bayonne. Donc je vais ordonner un prêtre qui a accompli son second cycle au séminaire de Bayonne, qui est donc Maximin Cess, et qui fait actuellement des études de théologie à Paris, au Bernardin. Et puis ensuite j'ordonnerai trois diacres le jour de l'Ascension, qui est devenue la date traditionnelle des ordinations diaconales en vue du sacerdoce, donc qui seront ordonnés diacres pour le sacerdoce, pour le diocèse évidemment, et trois prêtres, le 30 juin, donc les trois diacres de l'an dernier. Voilà. Donc c'est une année faste, on peut dire, pour nous. Hein.
Peut-être quand même dire, donc le jeudi de l'Ascension, c'est à 16h à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.
Oui.
Alors qui est-ce que vous allez ordonner diacre ?
Alors, je vais ordonner diacre Paul de la Passe, hein, qui a fait donc tout son séminaire ici depuis la propédeutique.
Qui est en stage, je crois, à Saint-Pierre-des-Rhumes.
Qui est en stage dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Rhumes, en effet. Et aussi à l'aumônerie de l'hôpital, où il est depuis 4 ans, hein, dans l'équipe de l'aumônerie de l'hôpital, très apprécié d'ailleurs. Je vais ordonner Dominique Nguyen, qui est un jeune Vietnamien qui est arrivé dans le diocèse après avoir fait un premier cycle en tant que travailleur missionnaire, donc à Caen, et qui m'a été envoyé par l'évêque de Caen, Monsieur Boulanger, donc à qui nous avons demandé de faire une propédeutique d'abord, pour s'acclimater avec le diocèse, et qui a fait donc tout le second cycle ici au séminaire de Bayonne, et qui est en insertion, lui, dans la paroisse d'Artix, avec Jean Chin, lui aussi vietnamien, et qui est le premier prêtre que j'ai ordonné dans le diocèse en arrivant à Bayonne. Et puis, je vais ordonner aussi Raphaël Chenval, qui depuis 2 ans est en stage pastoral, après avoir fait toutes ses études dans l'ex-fraternité des Saints Apôtres, comme vous savez, qui a été dissoute maintenant, et qui lui donc a discerné une insertion dans le diocèse pour le service du diocèse de Bayonne, et qui est lui en insertion pastorale à la cathédrale de Bayonne. Voilà, donc ça ce sont les trois diacres.
Et ensuite il y aura donc des ordinations.
Et ensuite j'ordonnerai les trois diacres que j'ai ordonnés l'an dernier. Donc d'abord Maxime de Minck, qui lui a fait tout son premier cycle à Bayonne, et qui après son stage pastoral à Pointe-Cœur, dans la banlieue de Naples, a fait son second cycle au séminaire Sedes Sapiensi à Rome, évidemment pour le diocèse de Bayonne, et actuellement en études de licence de philosophie, donc dans une université romaine. Ensuite, j'ordonnerai Vincent-Marie Venn, qui est entré dans le diocèse au début du second cycle et qui a fait son second cycle à Rome aussi, au Sede Sapientiae. Et j'ordonnerai Vianney Paquet, qui est aussi un ancien de la Fraternité des Saints Apôtres, qui est en insertion pastorale depuis 2 ans à la cathédrale de Bayonne, et qui lui aussi, après avoir fait toutes ses études, donc déjà à Namur, a décidé, a opté pour le diocèse de Bayonne. Donc il sera ordonné prêtre avec les deux autres, donc le 30 juin, à la cathédrale également. Non, ce sera le matin, je crois plutôt, parce que c'est un samedi. Donc ce sera à 10h ou 10h30, je ne sais plus.
Alors on précisera ça d'ici là, d'ici le 30 juin. Donc 1er mai à 10h30 pour l'ordination de Maximin Cess.
Voilà.
Les ordinations diaconales le jeudi de l'Ascension, donc le 10 mai à 16h l'après-midi à la cathédrale de Bayonne. Et donc le 30 juin dans la matinée à la cathédrale de Bayonne, les ordinations sacerdotales. Alors Monseigneur Hayé, un mot sur la campagne du denier de l'Église que vous avez lancée comme chaque année au moment du dimanche Rameau. Peut-être un petit point sur la campagne précédente.
Voilà. Vous savez combien nous étions inquiets de la baisse du denier de l'Église de ces 2 ou 3 dernières années. Et nous avons connu une embellie en l'année 2017 avec 6% de mieux par rapport à l'année précédente. Donc c'est plutôt encourageant, j'en profite pour remercier les équipes locales qui se sont mobilisées comme toujours pour distribuer les enveloppes et assurer cette campagne de proximité. Et je pense aussi que notre collaboration avec le diocèse de Bordeaux pour une mutualisation des moyens, en particulier des mailings un peu plus ciblés, a pu porter un centre de fruits, car ce qui était le plus important pour nous, c'était pas tant la baisse des donateurs habituels, qui est assez constante depuis des décennies, mais et qui est due à la perte des anciens, qui sont les donateurs traditionnels, il faut quand même reconnaître. Les jeunes générations ne sont pas encore rompues à cette tradition du denier d'église. Mais ce qui pêchait le plus, c'était la conquête, comme on dit, de nouveaux donateurs. Et là, on a eu effectivement une belle embellie sur la conquête des nouveaux donateurs qu'il s'agit maintenant de fidéliser.
Le denier de l'Église, c'est, par exemple, en 2017, vous avez récolté 2,7 millions.
C'est ça.
C'est quand même beaucoup.
C'est quand même pas mal, oui. Mais on avait 3 millions il y a encore quelques années, donc il faut remonter. Alors c'est sûr que tous les diocèses sont un peu en difficulté, parce que sur la province, mais ça vient aussi d'un problème numérique, évident. D'abord, nos assemblées diminuent, nos assemblées vieillissent. Et donc, nécessairement, les donateurs traditionnels, encore une fois, sont moins au rendez-vous. Donc, il faut trouver le moyen de rejoindre, d'abord, la fameuse génération des 50-65 ans qui sont établis, qui ont élevé leurs enfants et qui, traditionnellement, donnent davantage aux associations caritatives humanitaires. Et puis, il faut aussi avoir faut cibler aussi les plus jeunes, qui sans doute sont en train de s'installer, commencent une profession, ne vont pas forcément donner beaucoup, mais il faut déjà les sensibiliser pour leur faire comprendre que, une fois encore, l'Église ne vit que de la générosité de ses fidèles. Et la pérennité de sa mission dépend de cette générosité des fidèles, sachant que elle ne reçoit évidemment aucune subvention de l'État, en régime de séparation des Églises et de l'État, et encore moins du Vatican, auquel elle donne quelques quêtes annuelles pour aider les Églises plus pauvres.
Monseigneur, c'est le dimanche 6 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, qu'aura lieu le grand rassemblement diocèse en fête que vous avez voulu mettre en place avec l'Observatoire de la Mission, auquel tous les catholiques du diocèse sont conviés, mais pas uniquement les catholiques. Quel en est l'esprit? Quel en est d'ailleurs aussi finalement le programme? Et qu'en attendez-vous de cette journée diocèse en fête?
Alors l'esprit, il est inscrit dans le titre, diocèse en fête. On insiste évidemment sur l'aspect festif. Et je dirais aussi sur l'aspect de la joie. On veut évidemment que ce soit une journée de rencontres conviviales, festives, et donc qui donne de la joie. et qui permettent de partager la joie. Pas n'importe quelle joie sans doute, c'est la joie de l'évangile, hein, comme dirait le pape François, que nous voulons partager. Alors c'est ainsi que cette journée veut rassembler le plus possible les fidèles, bien sûr, de nos paroisses, de nos communautés, de nos mouvements, de notre diocèse, mais qui veut aussi déborder et aussi toucher peut-être à travers les fidèles qui amèneront des amis et aussi à travers les curieux, le tout venant de notre ville de Bayonne, hein, et de notre diocèse. Donc il y aura certainement un endroit d'abord central et sanctuarisé que sera la cathédrale, avec la célébration de la messe à 10h30 le matin, et qui se clôturera par le chant des vêpres, de manière un peu originale, en basque et en syriaque, et aussi en français pour que donc, tout le monde puisse y retrouver, suivi d'une courte cérémonie d'envoi en français pour tout le monde. Mais c'est une belle initiative d'un membre de l'Observatoire de la Mission que de relier, car ça exprime une part de notre histoire diocésaine, la liturgie en basque et la liturgie en syriaque, hein, sachant que le monastère de Belloc, qui est à la fois très en pointe dans la composition de ses mélodies en basque, pour des vêpres qui sont très caractéristiques de l'expression de la foi au Pays basque, comme on le sait, ou qui l'ont été en tout cas, et qui le redeviennent parfois dans certaines paroisses, eh bien, a été amené à aider les Syriaques en Terre Sainte, en Orient, hein. Et donc, il y a eu des passerelles entre ces mélodies basques et ces mélodies syriaques. Et donc, l'idée, c'est de les rassembler. Et comme il se trouve que notre diocèse accueille, depuis un certain nombre d'années, des réfugiés du Levant, d'Irak et de Syrie, qui sont de rite chaldéen, mais aussi syriaque, et on s'est dit que c'était une belle expression de cet accueil aussi de ces réfugiés dans notre diocèse, que de nous exprimer avec la culture locale au Pays basque, qui est évidemment la dominée par la langue basque. Mais personne ne sera exclu, il y aura du français, il y aura du béarnais aussi, mais on comprendra qu'on puisse souligner à Bayonne cette réalité-là. Voilà. Dans la journée, il y aura des prêtres qui seront disponibles pour confesser les personnes qui le désireront. Il y aura des groupes d'écoute et de prière aussi, de Réjouissez-vous à Pau, qui seront dans la cathédrale pour accueillir les personnes qui le désireront. Il y aura un lieu d'adoration à la chapelle Saint-Léon, permanente pendant l'ensemble de la journée. Et puis, après, il y aura deux lieux qui exprimeront peut-être la diversité de cette journée. À la fois dans le cloître, un partage d'initiatives missionnaires portées par des paroisses, par des services, par des mouvements, avec un petit voyage missionnaire à faire pour aller de quart d'heure en quart d'heure, écouter la présentation de telle ou telle initiative, de manière à partager cette joie d'annoncer l'évangile de manière extrêmement diverse, diversifiée, et peut-être puiser quelques idées pour soi-même les mettre en œuvre dans sa communauté. Et puis sur le parvis, ce que le pape Benoît XVI appelait le parvis des gentils, hein, en référence à ce lieu du Temple de Jérusalem, où ceux qui n'étaient pas juifs n'entraient pas, mais étaient un lieu de rencontre et de dialogue, et qui peut être aussi un lieu d'annonce, où se succéderont un certain nombre d'animations culturelles, musicales, de chants, etc., sur un podium à la portée de tous, et qui pourront attirer aussi beaucoup d'autres personnes que des fidèles très engagés dans la mission de l'Église, avec un stand de barbe à papa, une buvette, et des activités pour les jeunes, et un concours de vidéos pour des jeunes ados, qui, par quatre, avec un iPhone, un smartphone, pourront faire une petite vidéo de 3 minutes. Il y aura un petit concours qui sera organisé dans les jours qui suivront. Et enfin, après la messe, puisqu'on dit « ubi messa, ibi mensa », où il y a la messe, il y a le repas, un repas place Montaud, où tout le monde apporte ce qu'il faut, mais en apportant aussi quelque chose pour la place du pauvre, comme on disait autrefois dans les familles chrétiennes. De manière à ce que, avec les associations caritatives qui mettront en place ce grand repas partagé, eh bien, nous puissions accueillir des personnes en situation de précarité qui trouveront leur place aux tables de nos familles pour ce moment convivial du repas partagé.
Vous espérez réunir combien de personnes le 6 mai ?
J'en sais rien. Je
ne
sais
pas. L'objectif. Le nombre, c'est pas un objectif.
Non, c'est pas un objectif. C'est pas la quantité qui fait. J'espère qu'il y aura le plus de fidèles possible, parce que je pense que cette journée, elle est manifestement ouverte à tous et que tous peuvent y trouver quelque chose qu'ils pourront même apporter. Je pense qu'il y a tout le monde peut se sentir concerné et elle dépendra beaucoup de ce que chacun y apportera. Donc voilà, c'est un appel à ce que le plus possible de communautés paroissiales, de services et de mouvements jouent le jeu de cette rencontre diocésaine pour partager ensemble la joie de l'Évangile et être un signe peut-être de cette joie pour ceux qui nous entoureront, parce que ça va se passer au cœur de la ville de Bayonne.
Voilà, les auditeurs pourront retrouver tous les éléments du programme et tous les renseignements sur le site diocésain www.diocese64.org. Merci beaucoup, Monseigneur Marc Caillet, pour cet entretien, et merci également à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication, et rendez-vous donc le 6 mai à la cathédrale de Bayonne. Merci.
Merci.